Europe 1 Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, notre invitée, la comédienne Catherine Fro, a parlé de cette pièce de théâtre, Lorsque l'enfant paraît. Bonjour Héloïse Gouard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Merci de paraître. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Même merci de paraître. Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour Philippe.
Jean-Luc, vous apparaissez tous les jours pour vous intéresser à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, après quelle époque, vous intéressez encore à une toute nouvelle émission.
Oui Philippe, car samedi c'était jour de nouveautés sur France 2. Il y avait l'émission de Léa Salamé, mais il y avait aussi le 52e nouveau jeu de Cyril Ferraud. Hein, je ne sais pas comment il fait. Deux jeux quotidiens sur France 3, plus les cartes au trésor, plus le quiz des champions, plus Fort Boyard. La question qu'on a envie de se poser, c'est, pour se détendre, est-ce que chez lui il fait des jeux de société? Et en plus, en faisant tout ça, il réussit à rester frais, Cyril. Toujours bien rasé, le cheveu soigné, il fait propre. T'auras envie de manger dessus. Donc là, c'est son nouveau programme.
Vous regardez 100% Logique, le tout premier jeu où les questions posées n'ont aucun rapport avec vos connaissances, mais seulement avec votre logique et la manière dont fonctionne votre cerveau.
100% Logique, l'émission qui te permet de tester la fraîcheur de ton cerveau. Ça me parle. Moi qui pensais avoir du bain moussant dans la tête, cette émission m'a fait beaucoup de bien. Je me suis rendu compte que je devais avoir un QI de 120, mais que je l'utilisais qu'à basse consommation. Le thermostat de mon cerveau était réglé depuis longtemps à 19 degrés, mais je ne me rendais pas compte. Et si j'ai joué samedi soir, c'est parce que Cyril a bien pris le soin de rassurer tout le monde, quitte à poser des questions un peu bizarres.
Un enfant de 10 ans a autant de chances de gagner qu'un adulte de 80 ans, par exemple. Pourquoi ?
Pourquoi ? Bah, parce qu'il a moins de chances de s'endormir sur le canapé, surtout. Hein ? C'est facile de gagner quand t'as papy qui bave. Ouais. Alors, je vous préviens, j'aime bien connaître les capacités intellectuelles des gens avec qui je travaille, donc vous étonnez pas là, autour de la table, je vais peut-être vous mettre à contribution. L'émission commence doucement avec une première question soft.
Regardez. Si Nabil habite au Liban, quand Léon est-il né ?
Alors, qui l'a ?
Du tout.
C'est bien ce que je pensais, bande de tocards. Ouais. Nabil, c'est Liban à l'envers, donc Léon, il est né ?
À Noël.
À Noël, voilà. Voilà, toi t'es en famille avec tes enfants. Au bout de 15 minutes de ce genre de questions, tes enfants savent que leur père est teubé. Hein. Et pendant ce temps-là, il y a Cyril Ferraud qui nous montre que lui, il a un grand sens de l'observation. C'est pas le boss pour rien.
Je voyais pas la symétrie dans le reflet. J'étais induit en erreur par le...
Alors là, c'était une vraie question d'observation. Hein. C'est peut-être pas votre truc, l'observation.
Bah, pourtant, si, un peu.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis ophtalmo.
Dommage. Ensuite, une question est posée par un imitateur bien connu. Alors, nouveau petit jeu pour vous. Je vous laisse deviner qui il imite et qui est l'imitateur. Ça devait être un jeu d'enfant pour Culture Média.
Hello Cyril, bonjour Cyril. Connaissez-vous les jumeaux américains Bob et Mike Bryan, the Bryan Twins, joueurs de double légendaire ?
Alors, c'est un imitateur qui imite Nelson Montfort, mais qui est-il ?
Alors, je l'ai pas.
Non, moi non plus.
Eh ben, il y avait un piège. C'était le vrai Nelson Montfort.
Non.
Ouais, parce
il
que
s'imite lui-même.
Nelson Montfort, particularité maintenant, quand il parle, on dirait qu'il imite un imitateur qui est en train de l'imiter.
Oui.
Et honnêtement, on va dire la vérité. Aujourd'hui, Marc-Antoine Lebré fait mieux Nelson Montfort que Nelson Montfort.
C'est vrai.
Donc, au fur et à mesure du jeu, il y avait des candidats éliminés parce qu'ils se trompaient dans les questions. Et quand c'est comme ça, tu te fais tout petit, hein. T'as envie de disparaître. Mais non, Cyril venait les voir pour remuer le couteau dans la plaie.
Lucas, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bonsoir. Alors,
bonsoir.
J'ai essayé de réfléchir un maximum et j'ai pas réussi.
T'as franchi ce tonneur, Lucas. Et puis, vous moquez pas de lui, hein, parce que j'aurais bien voulu vous y voir. Il y avait des questions. Quand t'as pris l'apéro du samedi soir, c'est chaud.
Lorsqu'on avance les horloges en mars, si vous oubliez de changer l'heure de votre montre, serez-vous en avance ou en retard à un rendez-vous le lendemain ?
Moi, dans ces cas-là, je préfère annuler le rendez-vous. Hein. Il y avait aussi trois célébrités qui étaient venues jouer au jeu de la logique. Et notamment Caroline Margeridon, une des stars de l'émission Affaires conclues, qui est arrivée ultra confiante.
Caroline, sur une échelle de 1 à 10, ta logique, elle est où ?
100%.
On va voir comment tu t'en sors. T'es observatrice dans la vie, forcément.
C'est un peu mon métier.
Bah oui.
C'est un peu son métier, mais alors samedi, elle devait être en RTT. Parce que elle a bien galéré, Caroline. Je vais pas vous mentir.
6 éliminés, malheureusement. Vous passez en bleu dans le public. Et Caroline Margeridon, une fois de plus, est en bleu. Caroline, tu m'as dit lundi. Pourquoi lundi ? Selon le calendrier, si mercredi est le lendemain d'hier, quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Tu me dis lundi. Quelle est ta démonstration ? Quelle est ta logique ?
Bah, je comprends plus la question.
Je te rassure, Caroline, nous non plus.
Nous, on a compris. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. Et on vous retrouve sur la scène de République, non pas le lendemain d'hier, mais les vendredis et les samedis à partir du 8 octobre. C'est à Paris. Merci beaucoup, Jean-Luc. À demain. Héloïse Gouard. Question logique, mais non pas du tout.
Non.
Votre indispensable ce matin.
Alors je vous dis tout de suite, on va pas se poiler hein, aujourd'hui, puisque je vous parle d'une série autour d'un serial killer particulièrement monstrueux. On le surnommait le cannibale de Milwaukee.
Même question, Olivier Benkemoun.
Moi, je vais vous parler de la Palme d'Or de Cannes, parce que ça sort enfin cette semaine. Voilà.
Dans un instant, Catherine Fraud nous rejoint. On va parler de cette pièce de théâtre « Lorsque l'enfant paraît ». Mais d'abord, musique, c'est Patrick Bruel sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Catherine Fraud.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir à nouveau. Vous êtes comédienne. Vous avez démarré au cinéma dans Mon oncle d'Amérique. J'avais oublié ça. Petite pépite d'Alain René. On vous a vu dans Le dîner de cons, Odette Tout le monde, Les saveurs du palais. Deux Césars en 97 pour le meilleur second rôle dans Un air de famille. Meilleure actrice en 2016 pour Marguerite de Xavier Giannoli au théâtre. Vous avez joué les plus grands, Beckett ou Tchekhov avec Peter Brook, excusez du peu. De Molière, meilleure comédienne, pareil dans un second rôle pour Un air de famille. Et meilleure comédienne, c'était en 2016. Pour l'irrésistible Fleur de Cactus. C'est votre actualité, c'est pour ça que j'ai terminé par le théâtre, c'est au théâtre. Ça s'appelle « Lorsque l'enfant paraît », c'est avec et mise en scène par Michel Faux, pièce d'André Roussin, c'est au théâtre de la Michaudière. Je donnerai les dates, il y en a beaucoup, les jours, enfin c'est du mardi au vendredi, le samedi et le dimanche, je vais donner tous les horaires. D'abord, qui sont, on va faire court avant que vous nous détailliez qui est Olin, votre personnage, les deux personnages centraux, vous êtes marié à un sous-secrétaire d'État joué par Michel Faux. Qui est-il ? Après, vous me direz qui est Olympe.
Ah, alors voilà. Alors, Charles et Olympe Jacquet sont les deux personnages principaux, les parents. Ils sont parents de deux enfants qui ont un peu plus que la vingtaine. Et alors, si vous voulez, c'est des personnages issus de... Ça a été écrit dans les années... Ça a été écrit en 50. Mmh. Et donc, on est dans des principe de vie d'une certaine bourgeoisie de l'époque, des principes moraux, des principes religieux. Et c'est traité là-dedans, comme, c'est un cliché énorme. Ces personnages sont effrayants. Mais alors, ça me fait rire, pourquoi ? Parce que l'humour, l'écriture de André Roussin, c'est impressionnant. Une écriture cynique, une écriture sur... une analyse des comportements humains qui sont vraiment savoureux.
Alors ça date de 50, mais le comportement est toujours le même. Ça renvoie à plein d'événements qui se passent en ce moment. Alors Olympe est totalement affolée parce qu'elle doit avouer à Charles, donc son mari, j'ai oublié de dire qu'il est sous-secrétaire d'État à la famille et à l'éducation nationale, qu'elle est enceinte. Or, le même Charles vient d'obtenir, en tant que sous-secrétaire d'État, la fermeture des maisons closes et aussi d'augmenter les peines sur les délits d'avortement. Évidemment, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant ? On le garde, on ne le garde pas ? Parce que lui, il estime que c'est désastreux pour sa carrière de savoir que sa femme est enceinte.
Ouais.
Et en plus, il y a les enfants qui s'y mettent et en même temps, il veut gagner les élections. Et en même temps, il y a des principes.
Voilà, donc il est dans des arrangements épouvantables. Enfin, voilà, c'est une étude de mœurs sur comment s'en sortir dans la vie. C'est terrible.
Je voudrais qu'on entende un extrait, c'est au tout début de la pièce. Donc vous, Olympe, vous êtes avec votre mari. Vous ne lui avez encore rien dit de la petite naissance qui pousse dans votre ventre. Et pour qu'on comprenne bien, Annie et Georges, ce sont vos deux enfants à qui vous faites référence.
Ah Charles, tu es rentré. Je m'étais étendue un moment. J'avais tourné le bouton de la radio et je viens d'entendre que vous avez gagné la partie.
Oui, bonsoir.
Oui. Alors tu es content ?
Oui, très content. Comment es-tu ?
Moi, bien, mais pourquoi ?
Mais tu n'as pas très bonne mine.
Ah ?
Tu es lasse ?
Oui, un peu.
Papa vient dîner ce soir ?
Oui, avec Charlotte, je pense, oui.
Charlotte aussi ?
Ah bah. Tu sais bien que ton père et ta sœur deviennent un véritable tandem. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent se raconter d'intéressant toute la journée, mais ils ne se quittent plus.
Tant mieux, remarque, hein. Veuf et vieille fille, autant vaut qu'ils s'entendent bien. Je me demande pourquoi elle n'est jamais arrivée à se marier, Charlotte.
Tu le demandes ?
Bah oui, pourquoi pas.
Tu vois pas la tête qu'elle a ? J'ai à se demander comment vous avez fait pour être frère et sœur.
Il y a dû avoir un péché dans la famille. D'ailleurs, regarde, Georges et Annie n'ont pas tellement l'air non plus d'être du même père, tu sais.
Ah bah je te remercie de tes insinuations.
Bah quoi, c'est vrai.
Oh, mon pauvre Charles.
De quoi, mon pauvre Charles? Tu as des aveux à me faire sur la naissance de nos enfants?
Non, non, non.
Ah, bon, mais tu me donnes de ces coups brusquement.
Alors évidemment, mon pauvre Charles, quand on entend ces répliques, on pense au vaudeville classique avec la femme enceinte d'un homme qui ne serait pas son mari. Or, ce n'est pas du tout ceci que raconte Lorsque l'enfant paraît. C'est un vaudeville sans adultère. Et les enfants s'y mettent aussi. Il y a plusieurs enfants qui paraissent.
Ah bah oui, mais toutes les filles de la pièce tombent enceintes. Une damnation. On l'appellera Désiré, on l'appellera Bienvenue. Ouais. Mais c'est vraiment, il y a un effet ping-pong, c'est vraiment hilarant dans le genre comédie. Personnellement, c'est ce qui me fait rire.
Sur l'affiche, il y a un landau avec un lapin dedans. Je ne savais pas que ça existait. Racontez le test de la lapine.
Oui, oui, mais ça existe. Ça existait dans les années 30 et encore un peu dans les années 50, apparemment. C'est-à-dire que pour qu'une femme. Enfin, il y avait une histoire où on injecte une dose d'urine à une lapine, et si dans les 3 jours la lapine meurt, on est enceinte.
C'était le test de grossesse de l'époque.
C'est atroce.
C'est atroce.
Mais il y a une férocité dans le texte, hein, du début jusqu'à la fin, jusqu'à cette histoire de lapine. Mais voilà.
Alors, c'est une pièce qui a été écrite par André Roussin en 1950. Vous l'avez dit, on était juste au sortir de la guerre. Les deux enjeux de la pièce, c'est la fermeture des maisons closes et surtout l'interdiction de l'avortement. Ce sous-secrétaire d'État veut rendre l'avortement encore plus difficilement accessible. Question et télescopage avec l'actualité. À l'époque, c'est presque un gros mot. Vous dites à votre fille, c'est abominable, tu prononces des mots abominables. Ça vous inquiète ce qui se passe en ce moment dans certains États, notamment, je pense, à certains États américains?
Bah oui, bon, y a un retour en arrière, mais qu'on s'intéresse à ce qui se passait avant, qu'il y ait des choses qui changent et qu'on ait besoin de revenir en arrière sur certaines choses sensibles. Oui, mais là, je trouve ça épouvantable. Pour moi, c'est une régression qui fait peur, l'histoire de revenir sur le droit à l'avortement.
Et pourquoi justement vous êtes-vous intéressé à ce texte de 1950 puisque les maisons closes sont fermées et l'avortement est légal et légalisé en France? Pourquoi ce choix?
Mais c'est même pas à cause de cette actualité-là, vous voyez. Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une comédie puissante. Vraiment, les gens rient énormément. Mmh. Ça fait du bien. Et le sujet, effectivement, c'est troublant de voir qu'on a affaire aussi encore à une actualité. Les pièces des années 50, on parle de là d'où on vient, quelque part. Moi, ma grand-mère était un peu comme cette Olympe, à sa façon, c'est-à-dire un peu effrayante de par la religion, de par sa moralité, etc. Ouais. Elle avait beaucoup d'humour, ça compensait. Mmh. Mais elle a à voir avec cette Olympe.
Ah, votre grand-mère, c'était un petit peu le modèle, alors?
Ah, un petit peu, ouais. Ah oui, oui, absolument. Quelque chose de très risible, mais d'effrayant, quelque part.
Vous restez avec nous, Catherine Fraud. Culture Média continue. On va parler cinéma, série. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Catherine Fraud, on a parlé théâtre, on a parlé série avec vous, Héloïse Goy. Parce qu'avec vous, on parle série. Mmh. Mais aujourd'hui, vous m'avez prévenu, vous m'avez dit, on va pas trop rigoler. C'est ça?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Imaginez les pires atrocités qu'un homme puisse infliger à un autre homme. Eh bien, Jeffrey Dahmer a fait bien pire. Ah. Et la série, intitulée simplement Dahmer, c'est un true crime qui explore le parcours de ce jeune homme du Wisconsin qui a tué au moins 17 personnes sans être inquiété par les autorités. Pendant plus de 10 ans, les meurtres ont été commis entre 1978 et 91. Alors, le premier épisode est particulièrement glaçant. Il nous montre comment ce jeune homme a tiré ses victimes dans des bars gays avant de les droguer, de les tuer, de les démembrer et de les manger.
De les manger ?
De les manger, c'était un cannibale.
Mmh, ouais.
Alors, je ne m'attarde pas plus sur son mode opératoire, déjà parce que c'est atroce, et ensuite parce que ce n'est pas le sujet principal de la série. Les épisodes interrogent surtout l'origine du mal, et ça c'est passionnant. Très vite, on remonte le temps pour essayer de comprendre comment cet adolescent mal dans ses pompes a complètement vrillé. Alors, il n'y a pas d'explication claire, parce que même s'il avait une mère assez instable psychologiquement, Dahmer n'a pas été violé ou même maltraité pendant son enfance. Seuls quelques éléments de réponse sont apportés par la série, et notamment par son père, qui vient d'apprendre les crimes de son fils.
Il a toujours été un peu étrange, mais c'est un gentil garçon, très calme, très réservé. Quand sa mère et moi avons divorcé, ça a été très dur pour lui. Il venait tout juste d'avoir 18 ans et il vivait seul. La solitude lui a beaucoup pesé. Quand il était petit, il devait avoir 4 ans. Il s'est fait opérer d'une hernie. Il n'a plus été le même après ça. Peut-être que l'anesthésie lui a laissé des séquelles au cerveau.
Voilà, vous voyez, pas d'explication claire qui expliquerait ça. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé que c'était parfois dérangeant de ressentir de la peine, voire de la compassion pour ce gars un peu paumé, un peu bête, qui apparemment ne demandait qu'à être aimé. Et d'ailleurs, les familles des victimes n'ont pas du tout apprécié cette série qui fait déjà beaucoup de bruit. Hein. Moins de 48 heures après sa sortie la semaine dernière, Dahmer se classait déjà numéro 1 dans plus de 20 pays.
Alors, c'est évidemment pas la première série sur un serial killer. Qu'est-ce qu'elle a de plus, celle-ci ? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit numéro 1 ? Qu'est-ce qui fait que vous en parliez ce matin ?
Plein de choses intéressantes. Déjà, elle est signée par Ryan Murphy, qui est le spécialiste de l'horreur. C'est lui qui est à l'origine d'American Horror Story. Et là, Ryan Murphy n'a pas besoin de faire couler des litres de sang pour susciter l'horreur. On le remercie pour ça. Parce
bien
que
sûr,
c'est...
il suffit d'un couteau et d'une fourchette.
Humour noir, Philippe. La photographie est très oppressante, mais très belle. C'est hypnotique. Et puis surtout, il y a un message politique très fort dans le récit. En fait, la grande majorité des victimes de ce tueur étaient noires, pauvres et homosexuelles. Et cela explique en grande partie pourquoi Jeff Dahmer a pu opérer pendant des années sans être inquiété malgré les nombreux signalements. Et alors pour pointer ces manquements dramatiques de la police, la série fait quelque chose de très fort. Elle choisit de retranscrire mot pour mot un appel original de la voisine de Dahmer qui s'appelle Glenda. Cette femme noire a passé plus de 50 coups de fil aux autorités pendant les années où il commettait ses crimes dans son appartement. Et à ce moment-là, dans cet extrait, elle s'inquiète de l'avoir vu en compagnie d'un très jeune homme qui semble drogué et en danger. La police s'est cette fois déplacée mais a laissé ce jeune garçon remonter chez Dahmer.
Ici l'agent Balserzac.
J'ai interpellé une voiture de patrouille, la numéro 68, un peu plus tôt dans la nuit.
C'était moi.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez résolu la situation ?
Non, il ne s'agissait que d'un jeune homme bourré et de son copain.
Oui, mais quel âge avait l'enfant ?
Ce n'était pas un enfant, c'était un adulte.
Vous en êtes sûr ?
Madame, je ne peux pas être plus clair. On s'est occupé de tout. Il est avec son copain dans l'appartement de son copain.
Oui, mais si c'était un enfant et pas un adulte ?
J'insiste, cet appel a réellement eu lieu. C'était mot pour mot ce que Glenda a dit. Mais malgré cet appel, la police ne va pas revenir. Et le jeune homme, qui avait en réalité 14 ans, va bien être assassiné par Dahmer. Enfin, cette série doit beaucoup, elle doit énormément à Evan Peters, qui est époustouflant de réalisme dans le rôle de celui qu'on surnomme le cannibale de Milwaukee. Evan Peters est même carrément flippant. Je ne sais pas comment il fait pour sortir dans la rue, parce qu'il joue souvent des tueurs sanguinaires. C'était déjà le cas dans American Horror Story. Et d'ailleurs, il dit que ce rôle était le plus difficile pour lui à jouer. Série lourde, mais prenante et intéressante. Donc, je précise que Jeffrey Dahmer a fini par être arrêté et il est mort en prison en 94, 2 ans après son incarcération.
Et il était gay, il était homophobe ? Il ciblait volontairement les homosexuels ?
Il n'était pas homophobe, il était gay, il ne tuait que des victimes gays, presque que des victimes gays.
Où est-ce qu'on peut trouver cette série ?
C'est sur Netflix, 10 épisodes, Dahmer, ça s'écrit D-A-H-M-E-R.
10 épisodes, donc glaçant, non Catherine Fro ?
Oui, affreux !
Pas facile d'enchaîner après ça. Non. Ça vous dirait de jouer dans une série, pas dans celle-ci, mais...
Pas tellement de trucs d'horreur et tout ça, là, ça, c'est pas mon truc. Non, c'est trop dur en ce moment, je vois pas. J'ai du mal à passer ce cap-là, ouais. Oui.
Catherine Fro avec nous, Lorsque l'enfant paraît, c'est du théâtre, c'est à la Michaudière. On en parle dans quelques instants, Culture Média continue. Merci Héloïse.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Catherine Fro, Lorsque l'enfant paraît, c'est au théâtre de la Michaudière. Je vais dire quand à quand ça se trouve. C'est du mardi au vendredi à 20h, le samedi à 16h et à 20h, et le dimanche en matinée, comme on dit, à 15h30. C'est bien ça? Vous avez retrouvé Michel Faux 7 ans après Fleur de Cactus. Qui a eu l'idée de monter cette pièce Lorsque l'enfant paraît? C'est lui, c'est vous, c'est les deux ensemble?
Eh ben alors, cette fois-ci, c'est-à-dire, autant Fleur de Cactus, c'est moi qui lui avais mis le texte entre les mains en lui disant « Est-ce que ça t'intéresserait d'en faire quelque chose ?» Et là, c'est lui qui m'a envoyé cette pièce il y a 6 mois de ça, en me disant « Catherine, ce rôle incroyable pour toi, ça serait vraiment bien, la pièce est tordante et tout à fait intéressante. » Et effectivement, j'ai craqué dessus. D'abord parce que moi, quand j'étais jeune actrice, on me disait souvent, quand j'étais au conservatoire, on me disait souvent que je ressemblais à Gaby Morlaix. Pour les gens, vous voyez, qui avaient 30 ans de plus que moi à l'époque, me disaient ça.
Et alors, Gaby Morlaix qui a créé la pièce, donc.
Et Gaby Morlaix, voilà, pardon, oui. Qui a créé effectivement le rôle d'Olympe, ouais, dans la pièce d'André Roussin. Et ma grand-mère, qui était une férue de théâtre, l'a vue quand ils étaient en tournée avec Gaby Morlaix. Et ma grand-mère ne s'en est jamais remise. Elle en parlait tout le temps.
Et votre grand-mère a vu cette pièce ?
Elle a vu cette pièce en 53.
Attendez, attendez, ça fait télescopage dans ma tête avec ce que vous aviez dit avant. Vous disiez que votre modèle, c'était votre grand-mère. Donc votre grand-mère, est-ce qu'elle s'est vue, est-ce qu'elle s'est reconnue en la personne d'Olympe?
Mais j'en sais rien, parce que ma grand-mère, elle devait, elle devait avoir effectivement la cinquantaine à l'époque. Et en fait... Non, je sais pas. Enfin, tu sais, c'est bourré de contradictions, tout ça.
Bien sûr.
C'est une pièce, il y a un effet miroir énorme.
Alors, des contradictions, il y en a plein, plein, plein. Je rappelle que c'est votre mari, joué par Michel Faux dans la pièce, et sous-secrétaire d'État. Il vous demande d'avorter parce qu'il apprend que vous êtes enceinte de lui. Alors qu'au même moment, la même journée, il vient de faire passer une loi qui criminalise encore davantage l'avortement. Et alors, il y a une réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui en politique qui aurait pu être écrite il y a 3 jours. Réplique de votre mari, donc. Il vous explique, il dit « Nous sommes dans le cas où un homme qui a accepté d'assumer une charge publique doit savoir faire à l'État le sacrifice de certaines convictions intimes. Olympe, c'est en mon âme et conscience que je te parle et en tenant compte du poste que j'occupe, notre devoir est là, nous ne garderons pas cet enfant. » C'est-à-dire « Faites ce que je dis et pas ce que je fais. » Et ça rappelle plein de ministres et de politiques.
Ouais, c'est l'histoire des paradoxes et des arrangements, des petits arrangements entre gens de pouvoir.
Parfois, c'est plus qu'un petit arrangement.
Je vais pas parler de ce qui se passe. Gros arrangements, si vous voulez.
Je ne vais pas parler de ce qui se passe à la NUP. Et moi, ça m'a fait penser à Jérôme Cahuzac, qui était ministre du budget, qui traquait l'évasion fiscale et qui, dans le même temps, avait un compte en Suisse.
Et oui.
Et ça lui posait aucun problème.
Ouais.
Et il y a aussi la dimension des maisons closes, en revanche, qu'on a totalement occultée, qu'on a oubliée.
Ouais. Ouais. Fermeture des maisons closes.
C'est une bonne ou c'est une mauvaise chose?
J'avoue que j'ai du mal à me situer par rapport à ça, parce que je trouve ça effrayant. Comment, de toute façon, la prostitution, ça a quelque chose d'effrayant. Et là, maintenant, elle se fait de façon plus ou moins cachée. Il y a des dégâts énormes. Donc, on peut se demander si une vraie maison, ça ne serait pas mieux. Mais ça fait peur quand même.
Je partage totalement votre perplexité. J'ai retrouvé une interview de Michel Faux qui donnait il y a quelques semaines, qui ne va pas dans le sens de la doxa. Je vais vous dire ce que dit Michel Faux et je n'arrive pas à savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec lui. J'aimerais bien avoir votre avis. Faux dit « La fermeture des maisons closes est un sujet sur lequel on n'a pas évolué contrairement à l'avortement. On est très hypocrite sur la prostitution française. Marthe Richard, une ancienne prostituée, avait lancé le débat et elle a réussi à les faire fermer. C'était en 47. Ensuite, elle a compris que c'était pire. Les prostituées se retrouvaient dans la rue. Quand elle a commencé à les rouvrir, elle a essayé un refus. On se voile la face. Il y a un gros problème.
Ouais, c'est possible. Ouais. Ça demande réflexion, clairement.
On ne va pas trancher ce débat ici. On va faire un sas. Si j'ose dire, on va parler cinéma avec la Palme d'Or à Cannes. C'est Olivier Benkemoun qui va venir nous en parler, Catherine Fro. Mais d'abord, musique, c'est Lady Gaga, All My Hand.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Catherine Fro, Lorsque l'enfant paraît, c'est à la Michaudière avec Michel Faux. La mise en scène également est signée Michel Faux. On va parler de cinéma avec vous, Olivier Benkemoun. Bonjour. Olivier, votre indispensable, c'est rien d'autre que la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes. Palme d'Or qui sort cette semaine en salle.
Ça, vous l'attendez. Hein. Oui. Je peux vous dire que tout le monde l'attend. Ça s'appelle « Sans filtre ». No filter, comme disent les jeunes pour les réseaux sociaux. Au naturel, film effectivement Palme d'Or à Cannes, où vous croiserez des influenceurs, une île déserte, un bateau qui chavire, mais aussi des fontaines de vomi.
Darius.
Il n'a pas l'air très en forme. Parce que je fais les traductions en plus.
C'est
vous
n'avez
pas averti, mais je fais les traductions.
Branchez-vous sur europe1.fr. Vous allez voir Olivier Benkemoun dans un artiste, dans un
exercice
de haute voltige.
Ouais, donc j'ai déjà foiré la première. Alors, Sans filtre, c'est une comédie grinçante sur les classes sociales. Le point de départ, c'est la mode, où l'on a des troupeaux de garçons et de filles à qui on demande de sourire ou de faire la gueule en fonction de la marque qu'ils vendent.
Congratulations. Show me that Balenciaga.
Félicitations, montre-moi ton style pour Balenciaga. Maintenant, je veux m'habiller avec quelque chose de vraiment moins cher. H&M, Balenciaga, et H&M,
Balenciaga,
et vous avez compris. Première réflexion donc, vendre la beauté. Acte 1 du drame. Acte 2, la croisière. Un couple de mannequins influenceurs qui font commerce de leur petite personne sont invités pour une croisière de luxe, avec son cortège de personnel souriant, quoi qu'il arrive face à des ultra-riches, ultra-capricieux. Le réalisateur y est allé franco sur la caricature, l'industriel libidineux qui est devenu millionnaire en vendant des pesticides, la vieille aristo extravagante mais extra-humiliante pour le petit personnel du bateau. Il y a aussi ce couple aussi, Ils sont âgés, ils sont britanniques, ils sont discrets, ils ont passé leur vie ensemble à vendre des brevets de grenades explosives. Tous ces personnages doivent vous conduire à réfléchir de manière drôle et provocante à l'origine de l'argent. Ce qu'on vend dans une vie, finalement, qu'est-ce que c'est ? Et vendre sa beauté, c'est pas si grave au fond.
This is really bad.
C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Acte 3.
je précise qu'il traduit. Olivier Metkemoun ne commande pas l'extrait, il traduit l'extrait.
C'est gentil de m'aider à m'enfoncer. Acte 3. La croisière ne s'amuse plus du tout, le bateau chavire, tout le monde devient égal dans la tempête et dans le vomi. On nage dans le dégoûtant, sans distinction de sexe et de couleur. Et puis, le destin se charge d'en sauver quelques-uns et de les laisser sur une île déserte. Là, c'est la revanche des petits. Ceux qui nettoyaient les cabines deviennent les chefs parce qu'ils savent allumer un feu ou se débrouiller dans la jungle. Dans cet acte 3, que reste-t-il à vendre pour acheter les faveurs du chef ou de la chef ? Une chips et une cacahuète en plus ? Le petit influenceur qui n'a que sa beauté va continuer à la vendre. Et c'est là où ça devient un peu moche. Vendre sa beauté, mais à quel prix ? Au fond, c'est un film mal de mer, parce qu'il vous file le mal de mer, mais le réalisateur a ses mots pour le dire.
Avec ce film, nous avons voulu créer une sorte de montagne russe pour les adultes, c'est-à-dire quelque chose qui est amusant, qui lance des défis en même temps. Nous utilisons le cinéma pour ce qu'il est.
Les mots de Ruben Östlund, qui est suédois, à Cannes. Moi, personnellement, j'ai adoré détester, c'est-à-dire qu'un film, tu te dis, c'est bien, c'est amusant, c'est bien raconté, il y a des traits d'esprit, des personnages recherchés, mais au final, le propos te met tellement mal à l'aise, sans parler des fontaines de vomi. Le soir où il a reçu la Palme d'Or, le réalisateur a dit, on voulait faire un film qui provoque, qui dérange, qu'on ait quelque chose à dire en sortant de la salle, je vous assure qu'il y aura de la matière. Voilà,
il a été applaudi à Cannes.
Bien sûr,
applaudissements. Donc il n'a pas été sifflé comme la grande bouffe, par exemple, qui a fait scandale.
Mais ça y ressemble, c'est vrai. En plus, c'est sa deuxième palme d'or cannoise, puisque ce réalisateur avait reçu la première palme pour The Square.
Il n'y a plus de scandale maintenant à Cannes, c'est fini. The Square, c'était extraordinaire.
Oh, oui, c'est extraordinaire.
Là, non, il n'y a pas eu de... Ça arrive quand même, quand on voit un film. Les derniers films de Godard, c'était scandaleux.
Ah bon ?
Ouais, c'était des espèces de collages incroyables, une partie de la salle qui partait, etc.
Qui partait, mais on vénérait Godard, et tant mieux.
Mais donc les gens s'engueulent, et c'est ça qui est bien à Cannes. Les gens s'engueulent.
Godard.
Ouais. C'est le plus moderne des modernes.
Mais c'est extraordinaire. Moi, il m'a toujours fasciné.
Pareillement. Et moi, je ne suis pas comédien. Vous allez beaucoup au cinéma, Catherine Fro ?
Bah oui, quand je peux, quand j'ai le temps, j'y vais, ouais, absolument.
Dernier film ou dernier conseil ?
Moi, j'ai vu Chronique d'une liaison passagère de Emmanuel Mouret. Mmh. J'ai beaucoup aimé. C'est très poétique, très fin. C'est vraiment gracieux. Voilà, je sais pas, avec Sandrine Kiberlin et Vincent McCain, et tous les deux. Je sais pas, il y a quelque chose. C'est de la dentelle sur une relation amoureuse, un peu incertaine.
Elle amoureuse parce que moi, j'ai pas vu le film, mais j'avais compris que c'était une relation, mais qui n'était pas amoureuse et que justement, elle voulait totalement se maintenir à distance de cet homme.
Oui, plus ou moins, ils essayent de survivre sans s'engager jamais sur
sans
rien.
Sans tomber amoureux.
Voilà.
Et au final, ils tombent amoureux.
Bien sûr. Mais c'est sur une corde raide comme ça, c'est super joli comme film.
Un film magnifique qui fait un joli contraste avec la Palme d'Or.
Ouais.
Il y a de l'amour dans ce film.
Il y a un peu d'amour. Ça vous donne l'impression que l'amour est là, mais. Tous monnaie dans ce film, tous monnaie.
Un peu d'amour, du vomi, de l'argent, la palme d'or. Merci Olivier Benkemoun, à la semaine prochaine. Culture bon Média bien. Continue. C'est la dernière ligne droite avec Catherine Froy, tout de suite.
Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Catherine Froy, lorsque l'enfant paraît, est au théâtre de la Michaudière avec Michel Faux. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point dans cette pièce ? Vous me disiez hors antenne que vous vous amusiez comme une folle, si j'ose dire.
Oui, oui, parce que c'est un personnage un peu épouvantable, extrêmement drôle parce que à mon avis, elle est folle. Mmh. Il y a quelque chose de fou. Elle est enfermée dans ses principes moraux et religieux comme on n'en fait quasiment plus, mais comme
c'est
ça
fini.
Existe encore.
Ça existe encore, des gens qui vont à la messe. Ce qui m'a plu, c'est pas qu'ils vont à la messe toutes les semaines. Ils vont à la messe tous les dimanches à 11h15. Mmh. C'est à la minute près.
Oui, oui. Non, mais ça existe peut-être moins qu'avant, mais ça existe encore.
Ouais.
Et puis surtout, c'est là d'où on vient. Moi, je parlais de ma grand-mère, mais j'ai des tantes aussi. Enfin, dans ma famille, j'étais assez marquée par ce côté très principe quand même sur la morale, un peu sur la religion, mais où il y avait toujours des phrases toutes faites qui sortaient comme ça. C'est très intéressant de ressentir d'où on vient avec cet humour grandiose qu'il y a dans la pièce.
Et que reste-t-il de cet atavisme familial en vous ?
Qu'y a-t-il de fou en vous et qu'y a-t-il de rigoriste en vous ?
Oh bah là, j'en sais rien. Non, mais je suis pas très rigoriste, moi, puis je suis pas... Non. Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Des souvenirs humains, de personnes, des femmes, certaines femmes de ma famille, et avec, je sais pas, avec le temps qui passe et qui laisse des choses comme ça que je retrouve dans cette pièce, c'est-à-dire là d'où on vient.
Quel film de vous vont arriver ? Il y avait un tournage, on avait parlé une fois, c'était Un homme heureux. Ça fait un moment qu'il doit arriver.
Oui,
j'ai vu
oui.
que ce film comédie signé Tristan Seguela sortira le 8 février 2023.
Avec Fabrice Lucchini.
Voilà. Mais là, c'est une comédie.
Et Philippe Catherine et moi.
Mais il joue encore un... Il joue
c'est votre une comédie, oui.
Votre mari est encore un politicien.
Quoi ?
Votre mari est encore un politicien.
Oui, absolument.
Ah, vous aviez oublié.
Si, non, mais c'est
moi,
vrai.
J'ai pas oublié, c'est comme j'ai préparé le dossier hier, j'ai tout en tête.
Oui, voilà. Et
c'est
moi,
pour ça.
Et moi,
je n'ai pas de mérite. Et vous, vous l'avez tourné.
Je suis pas reconcentrée dessus.
Bien
voyez.
Sûr, vous l'avez tourné il y a très longtemps.
Il y a un an et demi.
Voilà.
Un an, et donc il sort dans. Ouais.
Et là, c'est presque un petit peu le même. Pas le même motif, mais il se prépare aux élections. Et juste avant les élections, lorsque l'enfant paraît, il apprend que sa femme est enceinte. Et là, dans le film avec Lucchini, il apprend que sa femme veut devenir un homme. Et après, il se passe quoi alors ?
Vous verrez.
Bon, je peux pas dire. J'ai aussi découvert en préparant cet entretien que 13 de vos films avaient franchi le million d'entrées au cinéma. Mmh. Est-ce que vous avez un truc pour savoir quand un film va marcher ? Vous voulez pas faire de la production ?
Ah, je me suis posé la question. Mais non, parce que j'aime mieux le côté plus artistique quoi, de mon métier. Pour moi, le choix des films est très important. Mais je ne me dis pas toujours « faut que ça marche, ça doit marcher ». Mais j'y pense quand même. Je pense à ce qui va se passer avec le public, la réception avec le public. Et voilà, c'est compliqué le choix.
Je sais.
C'est faire plaisir, c'est aussi essayer d'avoir des choses exigeantes, un peu intelligentes. Et voilà.
Puisque vous parlez de plaisir, je vais citer pour terminer une phrase de Michel Bouquet que vous citez souvent, c'est pour ça que je la reprends. Le public ne vient pas pour vous voir jouer, vous disait-il, mais pour jouer avec vous. Quelle différence vous faites ?
Ben évidemment. Ben la différence, c'est qu'à un moment, il y a une complicité entre effectivement ce que dégage un artiste et la réception du public. Il y a une sorte de fidélité, de complicité qui, selon les textes qu'on joue, selon les scénarios qu'on joue, effectivement... Les gens se sentent proches de nous. C'est le choix des personnages, c'est la manière, le sentiment qu'on dégage. C'est un travail, ça.
Un petit lapin sur un landau, c'est l'affiche de Lorsque l'enfant paraît. C'est avec Catherine Fraud et Michel Faux. C'est au théâtre de la Michaudière. Je vais le redire, c'est du mardi au vendredi à 20h, le samedi à 16h et 20h, et le dimanche à 15h30. C'est ce qu'on appelle les matinées. Merci d'avoir été avec nous, Catherine Fraud.
Merci
de
vous.
Ce moment partagé. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On va parler de ce mal qui est tellement d'actualité, la fatigue informationnelle, ou comment. Trop d'infos tue sinon l'info, en tout cas notre cerveau. Nous serons avec les journalistes rédacteurs de cette enquête, Gwenaël Go et David Medioni. Et puis, vous vous souvenez de Striptease, l'émission mythique belge ? Eh bien, c'est Jean Libon et Yves Inan qui sont les créateurs de cette émission pour un film qui sort au cinéma qui s'appelle Poulet frites, une enquête criminelle dont le principal indice est une frite. Et puis, l'écrivain Charles Dantzig, je vous jure que c'est vrai, pour un ouvrage fleuve consacré à un autre écrivain, Marcel Proust, ça s'appelle Proust Océan. C'est une petite merveille. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. Le programme du jour est d'abord bonjour.
Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on va se faire du bien grâce au pouvoir des plantes. On va se soigner grâce à elles. Et vous savez, en fait, on le fait depuis la nuit des temps, hein, de se soigner grâce à la phytothérapie. On sait que, par exemple, le curcuma est très bon pour les troubles digestifs, pour mieux dormir également. Il y a de nombreuses plantes qui ont fait leur preuve. Voilà. On fera le point aujourd'hui avec nos invités pour notamment soigner tous les bobos qui arrivent là de l'hiver.
Et puis on va soigner également nos bonnes manières avec Jérémy Combe, notre monsieur bonne manière. On va apprendre, on va tenter de vous apprendre à vous messieurs à être élégant en toutes circonstances.
Par exemple, à quelles circonstances
Écoutez, lors d'un mariage, comment bien se tenir.
Pour un entretien, pour la vie de tous les jours, pour accompagner ses enfants
à
l'école.
On a toujours besoin de cours de bonne manière.
Bien sûr.
C'est pas toujours toujours pour les messieurs d'ailleurs, mais aujourd'hui c'est pour vous. Et puis on va tester le jet peel. Le jet peel, c'est un soin esthétique.
Qu'est-ce que c'est d'après vous?
Ah, j'ai une idée. Voilà. Je sais pas.
C'est des projections sur le visage par haute pression, et comme ça, ça permet aux actifs des cosmétiques d'aller dans les couches profondes de la peau.
Ça voilà fonctionne bien. Mais Mélanie Gomez,
je l'ai pas testé, mais Benjamin Lévesque l'a testé. Ouais. Apparemment, c'est révolutionnaire.
Il a une peau de jeune homme, Benjamin Lévesque.
Il n'était pas très vieux déjà.
Il a 30 ans.
Merci, on vous écoute. Merci encore, Catherine Fro. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut, à demain.